Avec votre permission, je voudrais juste faire une sorte, on pourrait dire, d'agdama. Excusez-moi, je ne sais plus traduire tous les mots en hébreu qu'on a l'habitude de dire, même quand on parle en français ici en Israël. Une introduction, voilà. Donc, le cours de ce soir est dédié à la réussite de Ariel Chaim, de Nor Rachel Bat Gaele, Adam Avraham Ben Ariel, Eliora Rebecca Bat Rachel, Echeyel Ben Chana, ainsi que pour la guérison totale d'Avram Ben Sultana et de Chana Rivka Bat Sarah. Et pour qu'il y ait un petit peu moins de bruit, ça serait bien peut-être que les micros de tous les participants soient fermés et qu'on ne m'entende que moi, parce que sinon ça fait un bruit de fond qui est difficile. En tous les cas, je voudrais prévenir que le cours de ce soir est par l'intermédiaire d'une nouvelle technologie qui est de plus en plus utilisée, le Zoom. Et je suis avec ce soir une communauté de Marseille. Et j'invite tous ceux qui entendront ce cours, puisque je le mettrai après sur mon site, je vous invite, s'il y a différentes communautés en France ou dans d'autres pays, qui souhaitent pouvoir se réunir et avoir un cours en Zoom, je suis disponible de le faire. Il faut bien sûr entrer en contact avec moi et dans la mesure de mes possibilités, bien sûr, j'accepterai cette rencontre avec différentes communautés en France, en Europe, même en Afrique et partout dans le monde où j'ai des élèves qui me suivent. Tout va bien, c'est bon, on continue ? Voilà, alors on va commencer notre cours sur la délivrance finale liée avec le personnage de Rachel. Mais bien évidemment, on va faire d'abord un détour de manière à mieux comprendre après ce que l'on dira au sujet de Rachel. On est donc au mois de Iyar, et pourquoi j'ai choisi le sujet de Rachel ? Parce que nos maîtres expliquent que le mois de Iyar, chacune des lettres du mois de Iyar fait allusion en vérité à quatre personnages qui sont d'une certaine manière le commencement et la fin de toute l'histoire d'Israël. Le Aleph fait allusion à Abraham, les deux Yud font allusion à Yitzhak et Yaakov, et le Resh fait allusion à Rachel. Donc le mot Iyar en vérité est un mot purement inventé par nos maîtres, il ne veut strictement rien dire ni en hébreu ni en araméen. C'est un mot qui a été composé de toutes pièces pour faire allusion aux trois pères d'Israël, ceux qui ont commencé notre histoire, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et celle qui terminera notre histoire, ou plutôt celle grâce au mérite de Rachel, c'est elle qui amènera, comme on le verra, la délivrance finale, ce qui veut dire que le mois de Iyar fait allusion au début et à la fin de l'histoire de notre peuple, jusqu'à la délivrance finale. Entre parenthèses, j'en parlerai pas, mais je suis quand même obligé de le dire, c'est quand même absolument incroyable que les deux fêtes les plus importantes, modernes, de la renaissance d'Israël sur sa terre, sont au mois de Iyar. On a eu Yom Hatzmaout le 5 Iyar, et dans quelques jours on aura Yom Yerushalayim, ça veut dire la libération d'une partie de notre terre il y a 72 ans, avec la renaissance d'Israël sur sa terre, c'était le 5 Iyar, et dans quelques jours, le premier jour de la dernière semaine du Homer, on a Yom Yerushalayim qui tombe aussi au mois de Iyar, c'est-à-dire la libération de Jérusalem. On est encore bien sûr très loin d'avoir récupéré toute notre terre et toute Jérusalem, mais en tous les cas c'est déjà un commencement, un signe incroyable du ciel, et comme par hasard, ces deux fêtes modernes qui parlent de la renaissance d'Israël sur sa terre, sont toutes les deux au mois de Iyar, qui est lié, comme je l'explique, à la délivrance finale, dont l'allusion est le Resh du mot Iyar, qui fait allusion au personnage de Rachel, comme on va en parler. Revenons maintenant tout au début, mes amis. Pourquoi sommes-nous en exil depuis 2000 ans, le plus long, le plus douloureux, le plus terrible, le plus insupportable, le plus inacceptable de tous les exils que nous avons traversés depuis le début de notre histoire? l'exil de Édom, l'exil de Ésaü, qui dure déjà depuis 2000 ans. Nos maîtres nous révèlent quelque chose d'absolument incroyable. Ils disent, et vous le savez tous et toutes, à cause de Sinat Chinam, traduction en français, il y avait la haine gratuite entre nous. Ça veut dire que énormément de juifs se détestaient les uns les autres, énormément de clans, de mouvements. Le peuple juif était subdivisé en différentes sectes, en différents mouvements, et ils ne se supportaient pas les uns les autres, ils se haïssaient les uns les autres. Maintenant, mes amis, je vous pose une question absolument évidente. Vous croyez sincèrement que chaque matin, un juif se levait et il se posait la question « Tiens, qui pourrais-je haïr aujourd'hui ?» Évidemment, c'est pas de ça que l'on parle. La haine n'était pas une haine purement inventée parce qu'on avait envie d'haïr son voisin. Il y avait forcément un fondement à cette haine. Pardon ? Vous me parlez à moi, je vous entends pas. Essayez d'éteindre vos micros, mes amis, parce que ça me dérange dans mon cours. Donc je reprends. Il est clair, mes amis, qu'on ne parle pas d'une situation où les Juifs étaient devenus complètement idiots et ils se levaient le matin en se posant la question « Tiens, qui je pourrais haïr aujourd'hui ?» C'est beaucoup plus profond que ça. Et la preuve, c'est qu'il y a une allusion dans le Talmud qui dit la chose suivante. Le Talmud pose la question « Mais comment le deuxième temple a-t-il pu être détruit ?» Alors que précisément, à l'époque où le deuxième temple a été détruit, notre nation comptait des milliers de yeshivot, de centres d'études, de grands rabbanim, de grands maîtres de Torah, chacun avec des milliers d'élèves, la Torah était partout dans notre peuple. Donc nos maîtres posent une question évidente. Mais comment on peut comprendre qu'un peuple qui avait tellement de Torah ait pu arriver à une telle haine ? Ce qui veut dire que nos maîtres font allusion ici à quelque chose de terrible. La haine entre les juifs ne venait pas des gens simples, des idiots, des ignorants, des nuls. Elle venait précisément de ce qu'on pourrait appeler l'élite d'Israël. Puisque nos maîtres posent la question, puisqu'il y avait tellement de Torah, comment se fait-il qu'il y a eu tellement de haine ? Si ce sont pas les gens de Torah qui se haïssaient, alors la question ne se pose pas, ce sont les ignorants qui se haïssaient. Donc nos maîtres ici nous révèlent que la haine faisait aussi partie du vécu de ceux qui étudiaient la Torah. Alors comment c'est possible ? L'explication, mes amis, nous l'avons d'une autre manière, précisément dans la période que nous vivons aujourd'hui. Sfirat HaOmer, le conte du Omer, et jusqu'à l'Akba Omer, nous portons sur nous une certaine forme de deuil, puisque les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont morts en 33 jours. 24 000 élèves. Et nos maîtres posent la question, mais comment est-il possible que les 24 000 élèves du plus grand maître de tous les temps, celui qui a dépassé tous les autres, au point que le Talmud dise, Kula Maliba de Rabbi Akiva, que tous les enseignements de la loi d'Israël proviennent tous de Rabbi Akiva et de ses élèves. Nos maîtres posent la question, mais comment Rabbi Akiva a-t-il pu perdre en 33 jours 24 000 élèves? Et nos maîtres répondent, Mipne shelo na'agu kavod zelazé, parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres. Oui, les élèves de Rabbi Akiva ne se respectez pas les uns les autres. On va expliquer, c'est pas si simple que comme je le dis en français. Nos maîtres continuent et posent une autre question absolument incroyable. Ils disent, mais attends, je comprends pas. Mais pourtant, Rabbi Akiva est celui qui a enseigné, Ve'a aftale re'acha kamocha zeklal gadol batorah. C'est pourtant Rabbi Akiva qui a enseigné que le verset, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et le verset le plus fondamental de toute la Torah. Alors comment est-il possible que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui entendaient tous les jours le maître dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le principe le plus fondamental de la Torah », comment ont-ils pu ne pas se respecter les uns les autres ? Et il y a une réponse incroyable de nos commentaires qui disent, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient 24 000 à entendre et recevoir les enseignements du maître. Maintenant, on sait tous, mes amis, que chaque homme, il a son propre caractère, il a son propre tempérament, il a sa propre sensibilité, il a sa propre éducation. Et on le sait et on le voit dans le Talmud des milliers de fois que deux élèves, je ne dis pas 24 000, deux élèves peuvent être assis sur le même banc, entendre au même moment un enseignement qui sort du même maître et chacun va le comprendre différemment. Et des fois, à l'opposé l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que ce qui sort de la bouche du maître est reçu par deux réceptacles différents. Selon la nature, le caractère de chaque élève, l'un va le comprendre de telle manière et l'autre va entendre la même parole et va le comprendre exactement à l'inverse. Ça, c'est pas grave. Parce qu'effectivement, il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre. Le problème va commencer quand l'un et l'autre vont se disputer et vont dire « Mais tu n'as rien compris, c'est moi qui ai raison. Comment tu oses dire que le maître a dit cette chose-là » Mais non, le maître a dit ce que moi j'ai compris. Et l'autre va dire la même chose. Et ils vont se disputer, ils ne vont plus se respecter, chacun va traiter l'autre d'ignorant, qui ne comprend rien à la Torah du maître, et finalement ça va amener aussi jusqu'à la haine. C'est ça ce qui s'est passé. La haine gratuite, mes amis, provient du fait que chacun, précisément lorsqu'il a une certaine sagesse, une certaine connaissance, pense que toute la vérité est chez lui et que les autres se trompent. C'est ça la haine gratuite. Elle est gratuite en ce sens que la Torah nous enseigne que aucun homme sur terre ne peut posséder toute la vérité. Parce que aucun homme sur terre n'est assez grand pour pouvoir contenir toutes les facettes de la vérité. Et si c'est un homme humble, un homme qui véritablement comprend, ressent que personne ne peut dire « j'ai toute la vérité », quand il va entendre quelqu'un qui dit différemment de lui, il va tout de suite réagir et se dire « très bien, lui a compris une facette que moi je ne suis pas capable de comprendre. Lui a sa vision des choses, moi j'ai ma vision des choses, à nous deux on se complète. » Et un troisième va dire encore quelque chose d'autre, et un cinquième, un quatrième, un huitième, un neuvième, un dixième, et chacun va venir avec une parcelle de la vérité, exactement comme un puzzle. Comment qu'on montre l'image du puzzle? En prenant tous les morceaux qui séparés ne montrent rien, mais quand on les met tous ensemble, on a la grande image. Quand il y a l'unité dans le peuple juif, et que chacun accepte qu'il n'a pas toute la vérité, mais seulement une parcelle de la vérité, même si c'est un grand rave, il n'a qu'une parcelle de la vérité, parce qu'aucun homme sur terre ne peut avoir toute la vérité, on l'apprend même de Moshe Rabbeinu, où à plusieurs reprises, la Torah nous montre, expliqué par Rashi, que de simples gens du peuple avaient compris des choses que même Moshe ne savait pas, comme Bnot Slofrad, par rapport à l'héritage. Est-ce que un homme qui n'a que des filles, est-ce que les filles héritent, oui ou non? Pinchas, qui a rappelé à Moshe que Zimri ne se comportait pas bien. Et quand Pinchas l'a rappelé à Moshe, Moshe lui a dit, mais puisque c'est toi qui me l'as enseigné, alors agis toi-même. On voit que même Moshe Rabbeinu, la Torah, le courage de nous dire que même lui ne savait pas tout. Et qu'il est arrivé une fois que de simples jeunes filles apprennent à Moshe quelque chose que lui ne savait pas. Au point que Hachem a dit à Moshe, les filles de Tzlofrad ont raison, écoute-les. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Le seul et unique qui contient toute la vérité, c'est le maître du monde. Les hommes ne sont que des parcelles de vérité. Ou, si tous les hommes arrivent à s'unir, arrivent à être tous ensemble, chacun va amener sa parcelle de vérité, et tous ensemble, nous allons réunir toutes les pièces du puzzle, et nous allons avoir la grande image, nous allons voir de quoi il s'agit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple? Ce que j'appelle très souvent dans mes cours, le culte de l'ego, le culte de soi. Chacun, parce que justement il était grand, pensait qu'il avait mieux compris que les autres. Et quand il entendait quelqu'un dire exactement le contraire de ce que lui avait compris, tout de suite il lui rentrait dedans. Et tout le monde rentrait dans tout le monde. Et ça s'est terminé finalement par une haine que plus personne n'a pu maîtriser. Et ça, c'est le culte de l'ego. Le culte de l'ego, c'est-à-dire, même si c'est au niveau peut-être même de grands rabbanim, et chez eux c'est très très fin, c'est très très subtil. Mais mes amis, je vous rappelle que jusque dans notre génération, dans toutes les générations, il y a toujours eu des conflits entre différentes tendances spirituelles, entre à l'époque les chassidim, les mitnagdim, il y a toujours eu. Parce que chacun pense que la Torah est que et seulement chez lui. Mes amis, si c'est vrai sur le plan spirituel, alors qu'est-ce qu'on va rajouter sur le plan politique, sur le plan philosophique, sur le plan idéologique? C'est des milliards et des milliards de fois pire. Puisque si même dans le monde de la Torah, quelqu'un peut finalement se prosterner devant son ego et refuser que quelqu'un puisse comprendre différemment de lui, et on souffre de ça depuis 2000 ans puisque le Mashiach n'est toujours pas là, alors ne parlons pas du monde politique, qui est une véritable arène de lions qui se dévore, qui se déchire sans la moindre pitié. Et dans le monde philosophique, dans le monde idéologique, c'est une véritable chambre de mort où tout le monde s'entretue. Et tout vient du même problème, le culte de l'ego. Parce qu'on n'a pas cette humilité de se dire « Mais qui je suis pour prétendre tout savoir, tout connaître ? Qui je suis ?» Même si j'étudie la Torah depuis 50 ans, depuis 60 ans, depuis 80 ans, même si Dieu m'a doté d'un cerveau inimaginable, mais comment je peux imaginer que je sache tout mieux que tout le monde? C'est impossible. Et donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Maintenant, tout ce que j'ai dit, mes amis, n'est qu'une introduction. Je n'ai pas commencé encore vraiment le cours. Je vais vous rapporter un midrash extraordinaire qui va faire intervenir Rachel, et grâce à laquelle on va apprendre quelque chose d'extraordinaire. Nos maîtres nous disent que juste avant la délivrance finale, le maître du monde sera très embêté. Pourquoi ? Parce qu'il voudra libérer son peuple, mais il ne trouvera pas suffisamment de mérite dans son peuple pour amener la délivrance finale. Et qui mieux que nous le savons, on n'a qu'à se regarder dans toutes les générations jusqu'à aujourd'hui. Et donc le maître du monde va avoir une idée, il va amener les dix modèles du juste dans différentes générations et il va les interroger pour voir si leur mérite est suffisant pour l'utiliser pour délivrer le peuple juif. Le premier qui va rentrer bien sûr c'est Abraham. Abraham va dire devant le maître du monde, bien sûr c'est un midrash, tout ça il faut le comprendre comme des métaphores, mais il faut comprendre bien sûr le message. Abraham va dire devant le maître du monde, libère mes enfants par mon mérite. Regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Le maître du monde va lui dire, Abraham, c'est vrai, tu as fait pour moi des choses incroyables. Sans toi, il n'y aurait pas eu de peuple juif. C'est toi le premier qui a combattu l'idolâtrie. Tu as risqué ta vie, tu as été jeté dans la fournaise ardente parce que tu avais détruit les idoles de ton père. Mais d'un autre côté, Abraham, je ne peux pas utiliser ton mérite pour sauver mon peuple. Parce que c'est quand même de toi qu'est sorti Ishmaël. Et Ishmaël va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, non seulement à tes enfants, mais au monde entier. Et donc je ne peux pas utiliser ton mérite, parce que de toi est sorti Ishmaël. Abraham sort en baissant la tête. Ou plutôt il se met de côté en baissant la tête. Arrive Yitzhak. Yitzhak dit au maître du monde, à l'âge de 37 ans, j'ai été prêt à donner ma vie pour toi. J'ai consacré toute ma vie à te servir, maître du monde. Prends mon mérite et libère mon peuple. Le maître du monde lui dit, écoute, c'est vrai, tu es un homme extraordinaire. C'est incroyable ce midrash. Mais d'un autre côté de toi est sorti Esav. Esav, tu sais très bien combien il va faire souffrir tes enfants et combien il va vouloir dominer d'une manière sauvage le monde entier. Et combien de guerres il va causer, combien de sang va couler à cause de lui. Non, c'est de toi qu'est sorti Esav. Je ne peux pas utiliser ton mérite pour libérer mon peuple. Et il se met de côté en baissant la tête. Viens, Yaakov. Yaakov dit, maître du monde, tu as appelé les enfants d'Israël de mon nom. C'est-à-dire que toi-même, tu as reconnu que j'étais le plus grand des trois pères. Libère mes enfants par mon mérite. Hachem lui dit, écoute, tu n'as pas réussi à éviter la dispute entre tes deux enfants, Yehuda et Yosef, qui a causé, comme tu le sais, de très très grands malheurs. La descente en Égypte, et beaucoup plus encore pour ceux qui étudient et qui connaissent les secrets de la Torah, la dispute entre Yehuda et Yosef a causé de nombreuses catastrophes qui durent jusqu'à aujourd'hui, parce que cette dispute dans le fond, mais c'est un sujet en soi, n'a jamais été réparée, jusqu'à la délivrance finale. Yaakov se met de côté en baissant la tête. « Rentre Moshe !» Moshe dit à Hachem, « J'ai pas besoin de te dire quels sont mes mérites, tu les connais mieux que moi. J'ai fait naître ton peuple. Je l'ai accompagné jusqu'à la frontière du pays que tu leur avais promis. Je leur ai donné la Torah. Libère mon peuple par mon mérite. » Le maître lui dit, « Moshe, mais tu as quand même fait une erreur qui a fait que tu n'as pas pu rentrer en Israël. Et parce que tu n'es pas rentré en Israël, pratiquement tout de suite après ta mort, après ton décès, le peuple juif a commencé à descendre, parce que tu n'étais plus là pour les accompagner. Et donc tu portes une responsabilité, si tu n'avais pas fait la faute de frapper le rocher au lieu de lui parler, tu serais rentré en Eretz Israël, et dès le départ le peuple juif se serait construit sur de bonnes bases. Donc tu es en partie responsable de tout ce qui s'est passé après. » Moshe Rabbeinu se met de côté et il baisse la tête. Viens à Aaron, le Kohen Agadol, celui qui toute sa vie, il l'a consacré au maître du monde. Et il lui dit, maître du monde, libère Israël par mes mérites. Hachem lui dit, dis-moi, et si je me trompe pas, tu étais quand même un acteur très actif dans la faute du Vaudor, hein. Même si tu avais des raisons qui étaient sans doute très bonnes, mais concrètement parlant, et tu as cautionné la faute du Vaudor. Donc laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Et il se met de côté, il baisse la tête. Arrive Yosef, maître du monde, toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie, toutes les tentations, et je n'ai jamais, je ne suis jamais tombé. Je suis resté Yosef, Hatzadik, Yosef le juste. Libère mon peuple par mes mérites. Hachem lui dit, d'accord, tu es un homme fabuleux, mais d'un autre côté, ta dispute avec Yosef, avec Yehuda, a causé tellement de malheurs pendant toute l'histoire qu'il vaudrait mieux que tu te taises, reste de côté. Et il se met de côté, il baisse la tête. Arrive enfin David, maître du monde, je suis le premier vrai roi d'Israël, je suis le seul sur lequel il est dit « Chai Vekayam ». Je suis le modèle du juif authentique, le modèle de la nation d'Israël. Libère Israël par mes mérites. Et voilà que Hachem lui dit « Oui, mais ce que tu as fait avec Bathsheba, je vais te dire, mieux vaudrait qu'on n'en parle pas trop ici ». Parce que ça réveille constamment chez moi une certaine colère, donc fais-moi plaisir. Allez, mets-toi sur le côté. Les 7, c'était pas 10, pardon, je me suis trompé. Les 7 tzadikim, les plus grands de toute notre histoire, sont tous mis de côté. Alors, comment qu'on va être libérés? Au moment où plus personne ne comprend ce qui va se passer, on entend tout d'un coup un coup qui fracasse la porte, sans être invité. La porte s'ouvre dans un grand fracas, et rentre Rachel. Rachel s'adresse au maître du monde, elle dit, maître du monde, je te comprends pas. Vraiment, je te comprends pas. En quoi ça te dérange tellement que le peuple juif n'a pas toujours été vraiment à ton service, est parti courir à droite, à gauche, dans d'autres idéologies, d'autres religions, etc. L'idolâtrie, il t'a abandonné. Pas tous mangent kasher, pas tous font shabbat. Et alors, mais regarde-moi, moi qui ne suis qu'un être humain. J'ai vu devant mes propres yeux mon mari voler devant moi par ma sœur. Elle me l'a volé devant mes yeux. Elle m'a pris ce que j'avais le plus cher au monde. Car je suis sa seule et véritable unique épouse, comme on le sait. Elle me la vole devant les yeux. Et au lieu d'hurler, de la gifler, de la massacrer, je suis venu lui donner le code qu'il fallait dire sous la choupa. Parce que Yaakov se doutait que peut-être on le roulerait, et il s'était échangé un code entre lui et Rachel qu'il faudrait dire sous la roupa pour que Yaakov ne se rende pas compte qu'on est en train de le rouler. Elle a transmis le code à Léa. Et quand Yaakov sous la roupa lui dit, parce que comme on le sait à cette époque-là, les femmes se mariaient, elles avaient le visage complètement voilé, Yaakov demande à ce qu'il croit être Rachel, c'est quoi le code? Elle lui dit 1, 2, 3, 4, c'est bien, on continue. Plus que ça, maître du monde, j'avais oublié que mon mari m'avait donné un deuxième code. Dans la chambre nuptiale, avant que l'on s'unisse, je devais donner un deuxième code. J'avais complètement oublié de le donner à Léa. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru à toute vitesse. Je me suis caché sous le lit. Et toute la nuit, j'ai vécu ce que j'ai vécu. Au lieu d'être en haut, j'étais en bas. Et j'ai transmis le code à ma sœur. Pour ne pas qu'elle ait honte. Pour ne pas qu'elle soit giflée. Pour ne pas qu'elle soit jetée par la fenêtre. Et moi qui ne suis qu'un être humain, j'ai su, comment on dit en français les vatères, j'ai su renoncer à ce que j'avais de plus cher au monde, et toi, tu n'es pas capable de renoncer à ce que tu as demandé à ton peuple et de lui en tenir rigueur parce qu'il t'a trahi de nombreuses fois dans son histoire. Quand le maître du monde entend ça, il se met à pleurer et il dit, Rachel, arrête, 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 je vais pas tenir, je vais pas tenir. Arrête, arrête, arrête. Par ton mérite, tes enfants reviendront sur leur terre. Par ton mérite, ils seront libérés. Voilà que la délivrance finale se fera par le mérite de Rachel. Et que tous les grands justes de toute notre histoire, depuis Abraham jusqu'au roi David, n'ont pas pu mettre en évidence un mérite suffisamment grand. Et c'est Rachel qui l'emporte. Mes amis, ce Midrash cache des secrets absolument incroyables. Je voudrais avec vous effleurer, mais tout en rentrant malgré tout à l'intérieur, effleurer des choses absolument incroyables qu'on voit dans ce Midrash. Je veux juste dire à l'avance que ne comprenez pas mal ce que je vais dire. Je vais appuyer le Midrash parce que Hachem a repoussé chacun de ses justes, donc il avait quelque chose à leur reprocher. C'est pas moi qui le dis, c'est le Midrash. Je vais essayer d'expliquer en demandant pardon à tous ces justes et qu'on n'a aucune intention qu'à Dieu ne plaise de les humilier, mais simplement d'expliquer ce que dit le Midrash. Qu'est-ce qui s'est passé avec Avraham et Ishmaël? Pourquoi Hachem fait le reproche à Avraham, tu as mis au monde Ishmaël? Mais parce que on sait que Avraham, lui, si c'était pas Dieu qui était intervenu, il refusait d'écouter son épouse Sarah, il refusait de mettre à la porte Ishmaël alors qu'Ishmaël se comportait très très mal. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé avec Avraham? Je l'explique de manière très simple, mes amis, mais très juste aussi. Et finalement, l'ego, c'est mon fils, c'est le mien. Évidemment, ben, chaque père a à l'égard de ses enfants de l'ego. Ça veut dire que chaque père est capable de fermer les yeux et de ne pas voir la vérité claire parce que finalement, mon fils est une partie de moi-même. Et donc, l'ego m'empêche de voir la vérité vraie. À un niveau extrêmement subtil, Avraham a fait une faute d'ego. Ça veut dire que c'est mon fils. Passons à Yitzhak, duquel est sorti Esav. Mais c'est la même chose. Nos maîtres disent clairement que est-ce que Yitzhak était roulé par son fils. Mais comment c'est possible qu'un homme comme Yitzhak soit roulé par son fils? Parce qu'il n'avait pas le courage d'ouvrir les yeux et de voir la vérité vraie. Et pourquoi? Parce que c'est mon fils. Ce qui veut dire que et Avraham et Yitzhak ont à un niveau très subtil, très fin, mais ont commis une faute d'ego. Je refuse de voir mon fils tel qu'il est véritablement. Je vous signale que ceux qui étudient le Nar, la Bible, voient que même au niveau du roi David, la Torah répète souvent qu'il avait un comportement avec ses enfants très bizarre. Il ne les disputait, il ne leur faisait jamais de reproches. C'est dû au sujet de Avshalom, qui finalement s'est révolté contre son père. C'est dû au sujet de Adoniaou, que jamais le roi David n'a fait un reproche à ses enfants. Ça veut dire que même lui, à un niveau très subtil, avait lui aussi un ego qu'il n'arrivait pas à mettre de côté pour avoir le courage de voir qu'il avait des enfants qui étaient peut-être même des monstres, puisqu'il en a un des deux qui a voulu le tuer. Avshalom a voulu assassiner son père. Mais comment un père peut avoir le courage de reconnaître une telle vérité? Pour ça, il faudrait qu'il s'annule complètement. Même David n'a pas eu ce courage. Passons à Yaakov. C'est exactement la même chose. Pourquoi Yaakov n'est pas intervenu avec toute sa force et aurait donné une sacrée gifle et à Yosef et à Yehuda? Ben, parce que la Torah nous dit, Yosef était le fils préféré de Yaakov. Le Talmud va jusqu'à oser dire que Yaakov a fait une très 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 grave faute en montrant à tous les enfants qu'il chérissait Yosef plus que les autres. Parce que c'était bien sûr le premier enfant de Rachel qui l'avait perdu. Rachel était morte au moment de la naissance de Benjamin, le deuxième. Et donc Yosef, le premier, lui rappelait son épouse. Mais d'un autre côté, toutes ces choses-là l'empêchaient de voir la vérité, que Yosef se comportait très très mal avec ses frères. Comme on le sait, comme Rachid l'explique, regardez au début de Parchat Vayeshev. Encore une fois, l'ego qui t'empêche de voir la vérité vraie. Passons maintenant à Moshe. Pourquoi Moshe a frappé le rocher au lieu de lui parler? Mais la Torah le dit clairement, même si je l'explique d'une manière très très simple. Parce que les enfants d'Israël se sont mis en colère contre lui. Ils lui ont dit, allez, t'es incapable de faire sortir de l'eau du rocher. Maintenant que Myriam est mort, on va crever de soif. Puisque ça s'est passé juste après la mort de Myriam. Et comme on le sait, l'eau sortait du rocher pendant les 40 ans du désert grâce au mérite de Myriam. Ils ont commencé à l'insulter, lui dire, oh là là, qu'est-ce qu'on regrette Myriam, t'es vraiment, t'arrives pas à sa cheville, hein. Bon, ben, ça lui est monté un petit peu à la tête, Moshe aussi. Pourtant, Moshe était le plus humble des hommes. Mais ça n'empêche que, bon, ben, ça lui est monté à la tête et il s'est mis en colère. Au lieu de parler, il a frappé. Encore une fois, une faute d'ego. Et à Aaron, pourquoi il a accepté, même si ce n'était pas ses intentions, mais quoi qu'il en soit, dans les faits, il a, oui, participé à la faute du veau d'or. Mais parce que le Erevrav a su comment lui passer de la pommade. Le Erevrav aurait très bien pu faire le veau d'or sans Aaron. Mais ils sont venus, lui ont dit, tu es le grand prêtre. Tu es aujourd'hui le grand homme d'Israël, puisque Moshe est mort. Ils le croyaient mort. Ils lui ont passé de la pommade. Et finalement, même si c'est très subtil et imperceptible à notre niveau, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est pour ça que nos maîtres nous disent, mieux vaut recevoir des réprimandes d'un ami que des louanges d'un ennemi. Parce que les louanges te tuent. Et même quand elles viennent d'un ennemi. Et même Aaron n'a pas résisté. On passe à Yosef. Ben Yosef, on vient de le dire, évidemment, c'est le chouchou de Yaakov, c'est le préféré de Yaakov, et ça y est, il se prend pour le bon Dieu. Et il dit à ses frères, j'ai rêvé que vous prosternez tous devant moi, etc., etc. À chaque fois que les frères faisaient quelque chose de pas bien, il allait le dire au père, Rachi explicite, et moi, et moi, et moi. Ne me prenez pas à la lettre, c'est beaucoup plus subtil que ce que je dis, mais c'est vrai. Et le roi David, pourquoi il s'est précipité à prendre Bathsheba avant qu'il était vraiment en condition de pouvoir le faire, car son mari était toujours vivant, etc. Ben là aussi, nos maîtres nous disent, parce qu'il a vu, ben roi HaKodesh, il a vu avec l'Esprit Saint que c'est avec cette femme-là que sortirait toute la lignée du Mashiach. Il ne s'est pas trompé, c'est vrai, c'est de lui et de Bathsheba que sort Shlomo HaMeler et jusqu'au Mashiach. Mais pourquoi tu t'es précipité? Parce que t'as pas su te contenir. Et pourquoi t'as pas su te contenir? Parce que t'avais envie. Donc encore une faute d'ego. Bien sûr, je pourrais expliquer beaucoup plus profondément que ce que je l'ai dit. Mais d'un autre côté, vous voyez que ces sept personnages, même si il faut le prendre à des niveaux extrêmement, extrêmement subtils, parce qu'il s'agit de gens immenses, c'est pas aussi grossier que comme je l'explique, et je m'en excuse. Mais quoi qu'il en soit, les sept ont fauté avec leur ego. Et maintenant, arrivons à celle qui va nous sauver. Rachel. Et là, vraiment, sortez vos mouchoirs et pleurez. Parce qu'à chaque fois que je raconte cette histoire, j'ai envie de pleurer. C'est du jamais vu dans l'histoire humaine, une personne qui a su, à ce point, annuler totalement son ego. Qui mieux que Rachel sait que Yaakov est son âme sœur? son véritable zivoug. Qui mieux qu'elle sait que Yaakov, dès qu'il l'a rencontrée, lui a dit « Tu es mon épouse ». Il a travaillé 7 ans pour elle. Elle sait que lui et elle sont deux moitiés de la même âme. Et plus encore, elle sait bien sûr ce que vous savez, donc à plus forte raison elle, que c'est Hachem qui fait les Ivugim, c'est Hachem qui fait que se rencontrent deux moitiés d'âme pour ne former ou ne reformer qu'une seule âme. Elle a tous les arguments pour exploser de colère. C'est mon mari, c'est Hachem qui me l'a donné. Il a travaillé 7 ans pour moi. Elle voit sa sœur envoyée par son père sous la choupa. Mais elle aurait pu, mais pas qu'elle aurait pu, elle avait le droit d'intervenir, elle avait le droit d'hurler, elle avait le droit de lui tomber dessus, de lui enlever le voile et de montrer à tous que c'était une voleuse. Pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle ne le fait pas? Comment qu'elle peut, je m'excuse, c'est pas très... Ça noie. Mais comment qu'elle peut se mettre sous le lit pour pouvoir donner le code à sa sœur Léa et supporter une souffrance qui va durer toute la nuit de les voir s'unir alors que c'est son propre mari et lui, il croit qu'il est avec Rachel. Mais comment? Mais elle est folle ou quoi? Mais sors, crie, hurle! Quelle est la réponse, mes amis? Quelle est la réponse, mes amis? Parce que Rachel avait compris que la délivrance finale dépendait de notre capacité à détruire notre ego. Elle a eu ce réflexe de comprendre que ce que le maître du monde lui faisait vivre, c'est pour qu'un jour son mérite puisse servir à la délivrance de notre peuple. Que au moins dans notre peuple, il y aura eu un personnage qui aura été capable d'anéantir complètement, totalement le ego et de montrer qu'elle s'en remet entièrement au maître du monde. Maître du monde, tu as décidé qu'on me prenne mon mari. Eh bien, c'est toi qui décides. Pourquoi? Parce que Rachel a compris qu'en vérité, que tous les problèmes de l'histoire humaine et tous les problèmes de l'histoire de notre peuple, tous les problèmes des hommes et des femmes, tous les problèmes se résument à un seul et unique problème, le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi. Et pas seulement chez les ignorants et les imbéciles, même chez les grands, même chez les très grands, même chez les immensément grands. Comme le Midrash a le courage de nous expliquer au sujet d'Abraham jusqu'à David. Et Rachel, elle avait compris que le tikkun du monde dépend de notre capacité à mettre notre ego de côté. Et comment je peux mettre mon ego de côté? Quand je suis dans une situation où j'ai toutes les justes, vraies, authentiques raisons d'hurler, de me défendre, et malgré tout, je ne le fais pas parce que je comprends que le message que adresse, que m'Hachem, le maître du monde, est « Détruis ton ego, c'est plus important que tout. » Parce que si tu arrives à détruire ton ego, tu seras la matrice de la délivrance de ton peuple et à travers lui, de la délivrance de l'humanité tout entière. C'est pas évident, c'est pas évident. Je vais aller plus loin, mes amis, encore. Plus loin encore. Regardons jusqu'où va aller Rachel plus tard encore dans l'histoire. Pour le comprendre, je vais vous rappeler quelque chose. Nos maîtres nous disent que nos pères ont accompli toute la Torah bien avant qu'elle ne soit donnée. Sur ça, nos maîtres posent une question évidente. Alors comment se fait-il que Yaakov a épousé 2 sœurs? La Torah interdit d'épouser 2 sœurs. C'est même très grave. Nos maîtres répondent que nos pères ne respectaient la Torah que en Eretz Israël. Mais en dehors de la terre, ils avaient le droit de ne pas respecter tout ce que la Torah demande. Donc, comme Yaakov a épousé ses 2 sœurs en Syrie, Haran était dans le nord de la Syrie, Donc il avait le droit, parce que c'est seulement en Israël qu'il se devait de respecter toute la Torah. Maintenant, mes amis, on a un très très gros problème. Quand Yaakov va revenir en Israël, comment qu'il va faire avec deux épouses qui sont deux sœurs? Puisque en Israël, les pères respectaient la Torah avant qu'elle ne soit donnée. Alors comment qu'il va faire avec deux sœurs qui sont deux épouses? Alors nos maîtres répondent quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il fallait forcément, avant de traverser la frontière, qu'une des deux accepte de renoncer à son mariage. Je vous pose la question, mes amis. Laquelle des deux aurait dû renoncer au mariage? Ben, celle qui, depuis le départ, s'est procuré un mari qui ne lui était pas destiné. Bon, si, d'accord, très bien, Rachel a accepté, Rachel s'est tue, Rachel a tué son ego, elle t'a laissé voler son mari devant ses yeux, très bien. Mais maintenant, on revient en Eretz Israël. Et maintenant, il faut qu'une de nous deux s'en aille, parce que notre mari ne peut pas rester avec deux sœurs. Ça serait quand même normal, Léa, que ça soit toi qui demande le divorce pour que je reste seule avec mon vrai, seul et unique mari. Car tu sais très bien que Yaakov n'est pas ton vrai mari, comme la Torah le dit à plusieurs reprises. La seule qui est appelée l'épouse de Yaakov, c'est Rachel, jamais Léa. Eh bien, vous croyez que Rachel a osé même envisager de demander ça à sa sœur? Elle a dit, si on a une des deux qui doit partir, eh bien, c'est moi. Et effectivement, elle était enceinte de Benjamin. Et au moment où Yaakov est rentré en Eretz Israël, à ce moment-là, elle est morte en accouchant de son enfant, Benjamin. Et Yaakov s'est retrouvé avec une seule épouse. Plus de problème de deux sœurs, c'était Léa. Waouh ! Mais c'est pas possible, Rachel ! Tu donnes au départ ton mari, et maintenant tu donnes ta vie ? Tu donnes ta vie ? Mais Rachel, mais qui tu es ? Mais qui tu es ? Mais d'où tu sors ? Mais Rachel, mais d'où tu sors? T'es sûr que t'es un être humain? Vous connaissez encore un seul autre personnage dans toute l'histoire du monde qui aurait osé faire une chose pareille? De mourir pour laisser son mari à quelqu'un qui, dès le départ, n'était pas à la bonne place? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Encore une fois, elle tue son ego. Elle tue son ego complètement. Incroyable. Et qu'est-ce qu'elle va avoir en échange? Qu'est-ce qu'elle va avoir en échange? Eh bien, Rachel explique deux choses. D'abord, le roi David va naître à l'endroit où elle est enterrée, à Bethléem. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est par le mérite de Rachel qu'est né le roi David. Et c'est par le mérite de Rachel que nous aurons le Mashiach qui descend du roi David. Wow, quelle magnifique explication. David est né à l'endroit où Rachel a été enterrée pour nous faire comprendre que par le mérite de Rachel, nous avons eu le roi David qui est le modèle éternel du vrai, authentique juif, le seul sur lequel il est dit Chai Vekayam, il est présent et éternel, et celui duquel sort le Mashiach, et tout ça par le mérite de Rachel. Plus encore, Rashi nous explique que quand le premier temple va être détruit et que les Juifs vont être exilés en Babylonie, ils vont passer par Bethléem en sortant de Jérusalem. Ils vont demander aux soldats de les laisser prier sur la tombe de Rachel. Et grâce à cette prière, les soldats babyloniens vont les laisser prier quelques minutes sur la tombe de Rachel. Et grâce à cette prière, disent nos maîtres, c'est grâce à cette prière que finalement, cette prière a été écoutée et c'est comme ça que Dieu a promis qu'aucun exil ne serait éternel et que les Juifs finiraient par sortir de chacun des quatre exils. Qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là que la grandeur de Rachel, c'est d'avoir vu la grande image. De pas être resté coincé dans son petit vécu à elle. Mon mari, ma vie. et moi, et moi, et moi. Non. Rachel est une femme qui est arrivée à se hisser au niveau de la grande image, l'avenir du monde, l'avenir d'Israël, et à travers Israël, l'avenir des nations, l'avenir du projet divin. Elle a été capable de sacrifier ce qui était le plus cher à ses yeux pour s'ouvrir à une dimension qui englobe la réparation de l'humanité tout entière. Mes amis, quel est le message que nous comprenons de là? Alors évidemment, malheureusement ou heureusement pour nous, on n'est pas Rachel. Et c'est clair, mes amis, qu'on ne demandera pas à des gens comme nous d'arriver à ce niveau-là. Elle est là et son mérite nous sortira de l'exil et surtout du dernier exil, comme nos maîtres l'affirment. Mais malgré tout, même s'il est clair qu'on ne peut pas atteindre le niveau de Rachel, on doit dans notre génération, surtout notre génération, qui est celle de la délivrance, qui ne comprend pas, qui ne ressent pas, qui ne vit pas que nous sommes une génération extraordinaire et que nous sommes vraiment la génération qui s'approche de la délivrance finale à tous les niveaux. Les signes sont incroyables, le retour d'Israël sur sa terre, la teshuvah qu'il y a dans notre peuple, des milliers et des milliers et des milliers de juifs reviennent à la Torah. Vous le savez tous et toutes. Regardez les synagogues le Shabbat. Même dans les villes de province, elles sont pleines. Ne parlons pas à Paris, ne parlons pas à Strasbourg, ne parlons pas à Marseille. Il n'y a même pas une place pour s'asseoir. Et je vous dis même pas ce qui se passe en Israël. Il n'y a même pas de place pour rentrer. Il y a des gens qui restent à l'extérieur. Il y a un retour incroyable à l'identité juive authentique. Le retour sur la terre. Le retour à notre identité. Et pour ceux qui le savent aussi, et je le vis tous les jours, même au niveau des nations, il y a un retour incroyable. Des milliers, des milliers, des milliers de non-juifs ont découvert Israël et la Torah d'Israël grâce à Internet et éprouvent un amour, un respect pour Israël et la Torah comme jamais dans toute l'histoire de notre peuple. Et je le vis moi tous les jours. Tous les jours. Donc il y a un retour à la vérité partout dans le monde. Nous sommes la génération du retour. Et pourquoi? Parce que nous nous approchons de la délivrance finale. Mais d'après le cours que j'ai donné, vous devez comprendre, mes amis, que le travail essentiel que nous devons faire pour mériter cette délivrance, c'est travailler sur notre ego. À notre niveau, qu'est-ce que cela signifie? Arrêtons de croire que nous sommes les meilleurs. Arrêtons de croire que nous savons tout. Arrêtons de croire que nous pensons et comprenons mieux que les autres. Commençons à travailler sur notre ego. Commençons, mes amis, à comprendre que la délivrance finale dépend de notre capacité à accepter tous et chacun, malgré les différences, malgré le fait que tu ne penses pas comme moi, mais tu es un homme comme moi, tu es un être humain comme moi. Le jour où on sera capable de mettre nos idéologies, nos philosophies et même nos croyances de côté et de rechercher l'humain, l'être humain, et de rechercher le bon et le bien qu'il y a dans chacun. C'est comme ça qu'on va reconstruire le monde. Parce que nos croyances, nos idéologies, c'est elles qui nous aveuglent et qui nous enferment dans cette prison de l'ego et qui nous font refuser celui qui n'est pas comme nous. On doit s'ouvrir. On doit précisément aller chercher ceux qui ne sont pas comme nous. Essayer de les comprendre. Essayer de les respecter. Essayez de les accepter. Mes amis, je terminerai le cours d'aujourd'hui par un message extraordinaire. Je vais revenir sur ce que Rachel a fait. Rachel, mes amis, accepte donc que Léa rentre sous la choupa à sa place, qu'elle lui vole son mari. Mais je vais vous poser une question évidente. Et après, je vais la traduire dans un langage plus moderne. Mais puisque Rachel sait que c'est le maître du monde qui fait les mariages, donc en vérité, en laissant Léa rentrer à sa place, C'est comme si elle acceptait finalement de trahir, d'être complice d'une trahison, pas seulement à son égard, mais à l'égard du maître du monde. Alors, si c'était que à l'égard de Rachel, je veux bien. Mais ici, c'est aussi le maître du monde qui est en jeu, puisque c'est lui qui décide les mariages. Comment elle ose laisser sa sœur, excusez-moi l'expression, cracher au visage du maître du monde, en lui disant, je me fiche du fait que tu as choisi Rachel, je rentre à sa place. Mais c'est au maître du monde que s'attaque Léa. C'est pas seulement à sa sœur. Pourquoi Rachel ne réagit pas? Eh bien, je vais vous apporter un autre exemple dans la vie de tous les jours. D'accord? Supposons que je rencontre demain un juif, et je sais que ce juif-là, il mange du jambon beurre le jour de Kippour. Comment je vais être avec lui? Est-ce que je vais m'arrêter sur le fait que ce juif-là trahit le maître du monde en mangeant du jambon beurre le jour de Kippour? Ou bien je vais chercher chez lui, bon très bien, il y a ce problème qui est très 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 grave, c'est sûr, mais je vais chercher chez ce juif-là d'autres points, peut-être dans lesquels il est très bon, très brillant. Peut-être que lui mange du jambon beurre à Kippour, mais peut-être que lui a un shalom bayit, a une entente avec son épouse inimaginable. Alors que moi, je ne mange pas à Kippour, moi, je mange ultra kasher toute l'année, mais bon, avec ma femme, c'est pas le paradis, hein. Ah, mais moi, je regarde que le fait que ce juif-là, il mange du jambon beurre à Kippour. D'accord, mais dans d'autres domaines, il est peut-être meilleur que toi. Peut-être que lui aide des dizaines, des centaines de personnes dans le monde qui n'ont pas de quoi manger. Et toi, tu le fais, toi? Donc, ne t'arrête pas uniquement sur le point que, dans ce domaine-là, il se comporte très, 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 très mal. Ouvre les yeux sur tous les points de sa personnalité. Et tu vas peut-être voir, effectivement, que dans sa personnalité générale, il a des tas de qualités que peut-être que toi, tu n'as pas. Et mes amis, c'est pratiquement à 99% vrai dans tous les cas de figure. On s'arrête sur quelqu'un, on ne voit que ce qu'il fait de mal, mais on fait tout pour ne pas voir ce qu'il fait de bien. Et comme ça, on peut le démolir. Sale juif, tu manges du jambon beurre à Kippour, t'es même pas un juif. D'accord? Mais lui et son épouse s'aiment à la folie, toi, ça fait des années que à peine tu parles à ta femme, mais ça, c'est pas grave, hein. Ce qui compte, c'est que lui, il mange du jambon beurre à Kippour. Qu'est-ce qu'elle a été capable de faire, Rachel? Elle a été capable de ne pas se focaliser sur ce que sa sœur faisait de mal. C'est vrai qu'elle faisait quelque chose de très, très, très grave. Mais Rachel connaissait sa sœur. Rachel savait que sa sœur avait des milliards d'autres qualités. Et au lieu de se focaliser sur son défaut, elle a ouvert les yeux sur toutes les autres qualités et elle s'est dit... Je peux pas faire honte à ma sœur. Je peux pas. C'est impossible. Elle a trop de grandeur, cette femme-là. Même si dans ce domaine, elle se comporte très mal. Mais moi, je sais que ma sœur, dans des milliers d'autres domaines, elle est extraordinaire. Et je refuse de lui faire honte en public. Je n'irai pas la dénoncer. Voilà ce que nous devons faire, mes amis. Quand on est en face de quelqu'un qui fait quelque chose de mal. Évidemment que le mal est mal. Je n'ai jamais dit qu'il faut passer l'éponge sur son mal. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le négatif. Ouvre les yeux et vois tout le positif. Et pratiquement dans chaque homme et chaque femme sur terre, tu trouveras toujours beaucoup plus de positif que de négatif. Dans d'autres domaines, mais il y a beaucoup plus de positif que de négatif. Mes amis, je termine. Quand on arrivera dans notre génération à ouvrir les yeux sur chaque homme, sur chaque femme, à ne pas se focaliser uniquement sur ce qui nous dérange, à chercher le bien dans chaque être humain. À ce moment-là, nous arriverons à l'unité, à la paix, au respect. Et à ce moment-là, nous mériterons, Be'ezrat Hashem, d'être comme Rachel et d'être le réceptacle de la délivrance finale. Amen, Vechen et Ratzon. Voilà, mes amis. Voilà. Alors écoutez, si vous le voulez, si vous le voulez, Jonathan, si vous le voulez, on peut, pas vraiment régulièrement, mais de temps à autre, on peut se mettre d'accord sur un calendrier de cours Zoom, si vous êtes d'accord. Je suis prêt à en refaire. À vous de me tenir au courant. Voilà. Michael, pardon. Alors à tous et à toutes, une très très bonne soirée. Shabbat Shalom. Et qu'on puisse tous mériter la délivrance finale. Amen.